Mon corps,
mon accouchement.
Vous rêvez d'une naissance naturelle durant laquelle vous pourrez expérimenter la puissance de votre corps de femme ? Vous êtes au bon endroit. Je suis Laura Mbaye Hohenegge, sage-femme, plus que jamais engagée à vos côtés. Ce podcast vous donnera l'information et la confiance nécessaires et vous accompagnera dans votre chemin vers un accouchement physiologique. Laissez-vous inspirer, prenez confiance en vous et n'oubliez pas, dans la salle d'accouchement aussi, votre corps vous appartient. Dans cet épisode, Marie raconte cette nuit enneigée du mois de janvier, mais il fait bien chaud chez elle et le bébé montre qu'il est prêt à venir. Ici, Marie raconte son cheminement, l'accompagnement global qu'elle a eu avec sa sage-femme, la puissance de la naissance, la présence de son mari et les premiers moments en famille. Le corps sait faire et Marie a écouté ce corps. Et s'est faite porter par ses vagues.
Bonjour Marie.
Bonjour Laura.
Je suis très reconnaissante d'avoir accepté mon invitation à partager ton expérience. Tu es la toute première mère à participer à cette émission. Un grand merci.
Merci à toi.
De rien. Alors Marie, peux-tu te présenter en quelques mots, ainsi que ta famille ?
Oui, alors je m'appelle Marie-Lalita, j'ai 33 ans, j'ai un fils Victor, né en 2019, qui est né à la maison. Je viens d'une famille nombreuse, je suis numéro 2 de 5 enfants, je suis française, mais j'habite depuis 15 ans à Munich, et mes parents vivent encore en France.
Merci. Est-ce que, enfant, déjà, tu savais que tu serais mère un jour ?
Oui, ça a toujours été quelque chose d'évident pour moi. Je pense du fait que je venais d'une famille nombreuse, donc en tant que grande sœur, on est toujours très impliquée à aider ses parents et puis avoir beaucoup d'enfants autour de soi. Donc c'est vrai que pour moi, la maternité, c'était quelque chose d'évident et de très naturel et que très tôt, j'ai eu ce désir, oui.
D'accord. Quel signal vous a indiqué que vous étiez prêt pour concrétiser ce désir d'enfant ? Est-ce qu'il y a eu un décalage avec ton partenaire, par exemple, sur le moment choisi ? Vous étiez en parfaite synchronisation ? Comment ça s'est passé ?
Eh bien, on s'est rencontrés assez jeunes. Donc moi, j'avais 21 ans. Mon mari, il avait 19 ans. Mais c'est vrai que je lui ai dit très rapidement, de quelques semaines qu'on était ensemble, que pour moi c'était important de fonder une famille, donc il fallait qu'il le sache, quoi. Enfin, j'ai mis les cartes sur la table rapidement. Voilà. Et donc lui il m'a dit oui, mais par contre dans 10 ans.
Et vous avez respecté ce délai finalement ?
Exactement, exactement. quelques mois avant qu'il ait 30 ans, effectivement il m'a dit un jour je suis prêt, et deux semaines plus tard j'étais enceinte. Donc c'était... C'est vraiment passé...
La nature vous a aussi aidé.
Exactement.
Et par rapport à ce projet de naissance, d'accouchement à la maison, est-ce que c'était une évidence pour toi,
Alors, pas avant de d'être enceinte. J'y pensais déjà un peu, mais c'était pas encore une évidence, non. Pour moi, avant, j'avais peur de la naissance. Je m'imaginais ça douloureux, quelque chose d'un peu horrible, alors que c'est pas du tout ce que j'ai vu par rapport à ma mère ou quoi, mais peut-être plus vu dans les films. On voit les femmes qui hurlent, c'est quelque chose qui a pas l'air agréable. Aussi des histoires que j'avais entendues d'autres mamans, j'avais plutôt une mauvaise image, on va dire, de la naissance. Et je me disais, non, moi je veux une césarienne, ouais, pour que ça aille le plus vite possible et que je n'ai plus rien à voir avec ça, quoi. Je voulais mon bébé et puis voilà. Et puis, donc, quand j'ai été enceinte, alors là, par contre, c'était une évidence tout de suite. Je me suis dit, ah oui, je veux l'accouchement à la maison. J'ai su tout de suite que j'étais enceinte le jour d'après, parce que je me dis, mais pff, je me sens trop bien, qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que je me suis rendu compte, que je me suis dit, ok, donc ça doit être ça, parce que je me sentais à l'intérieur comme un petit soleil, enfin je me sentais bien, vraiment ouais, très agréable. Et là, je me suis déjà sentie ouais, en symbiose en fait, avec mon bébé, et là, je me suis dit, oui, non, je veux l'accouchement à la maison. En plus, j'adorais notre appartement, c'était lumineux. Et donc, ouais, je m'imaginais déjà le. Et après la naissance, elle s'est passée plus ou moins comment j'avais eu dès le début cette image de ça serait la nuit, ça serait mon cocon, il ferait froid dehors. Effectivement, il y avait au moins un mètre de neige, c'était vraiment frais dehors, et puis à l'intérieur tout chaud, tout un cocon, c'était la nuit, c'était agréable, enfin, c'était donc ce que j'avais imaginé.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à l'expérience de ta propre maman?
Elle a, dès son premier enfant, décidé d'accoucher à la maison. Elle était dans une démarche alternative, naturelle. Elle voulait aller, oui, je pense, à son rythme, avoir une naissance paisible. Je pense que c'est pour ça qu'elle a choisi, dès son premier enfant, d'accoucher à la maison. Elle a accouché aux États-Unis, à la maison de mon frère. Tout s'est bien passé. Donc c'était quelque chose qu'elle a recommencé 4 fois. Donc,
et en France par la suite.
Et par la suite, c'était en France, exactement.
D'accord. Et toi, ta propre naissance, tu disais que tu étais la numéro 2. Toi, du coup, tu es pas née à la maison.
Non, exactement. Moi, je suis née à la clinique. Ça s'est, pour elle, pas très bien passé. Elle s'est sentie... désapprouvée, qu'elle voulait pas la péridurale, qu'elle voulait une naissance naturelle. Et à l'époque, le personnel médical n'était pas très ouvert à ça. Et je me rappelle, elle a dit une phrase que le médecin lui disait « Ah, ben, vous avez pas pris la péridurale, maintenant vous avez mal, c'est bien fait pour vous. » Donc elle avait assez... c'est comme ça qu'elle m'avait toujours raconté que elle avait pas très bien vécu. Et que du coup, c'est pour ça que pour les naissances suivantes, elle avait de nouveau choisi à 3 reprises la naissance.
D'accord. Assistée d'une sage-femme.
Exactement. Assistée d'une sage-femme.
Oui, donc notre environnement familial, amical, forcément influence et conditionne nos actes. Comment justement ton partenaire, ton mari, a réagi par rapport à ce projet de naissance?
Alors, il savait que ma mère avait accouché à la maison. Ma belle-sœur a aussi 4 garçons, dont la femme de mon grand-frère, qui elle a aussi accouché à la maison. Donc, il n'était pas choqué, on va dire. Enfin, il savait que c'était, dans ma famille, j'avais des exemples où ça s'était très bien passé. Donc, je pense qu'il n'était pas spécialement choqué. Mais il m'a dit, si c'était moi qui étais enceinte, moi j'irais en clinique. Mais comme c'est toi... Toi, tu te sens mieux comme ça, donc tu décides. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très bien. Mais là, c'était la réponse, bien sûr, que j'espérais, mais que donc, j'étais contente d'avoir aussi.
Ouais. Et ton mari, il est aussi allemand, et quand même, en Allemagne, l'accouchement à domicile fait partie du paysage et des alternatives possibles pour les femmes. Donc pense, l'accouchement à domicile est beaucoup plus marginalisé, les sages-femmes ont des grandes difficultés à travailler de cette façon-là, puisqu'elles ont des problèmes à trouver une assurance qui accepte de les couvrir pour les accouchements à domicile, que c'est extrêmement cher. Alors en Allemagne, les difficultés des sages-femmes sont aussi présentes puisque l'assurance est chère, mais dans la mentalité allemande, l'accouchement à domicile fait partie du paysage. Et peut-être que lui, cette possibilité-là, le choquait moins par rapport à son contexte, en fait, par rapport à son
environnement. Oui, sûrement. Sûrement. Bon, lui, il était né en clinique, ça s'était assez bien passé, mais par exemple, sa mère n'avait pas pu l'allaiter, on lui avait dit qu'elle n'avait pas assez de lait. Il l'avait assez mal vécu, pour lui, c'était par exemple quelque chose qui m'a tout de suite dit « Oh, j'espère que tu allaiteras notre enfant, ma mère n'a pas pu m'allaiter », c'est vraiment, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur, par exemple. Et donc, de faire une naissance voilà, naturelle à la maison, ça, était, ça allait dans ce sens-là pour lui, donc je pense que c'est ça aussi qui le rassurait peut-être, ou qui, enfin...
Ouais. C'est, je trouve ça positivement surprenant que d'emblée il ait cette, cette image aussi positive de l'allaitement. L'allaitement est aussi un projet, et c'est vrai que quand la mère et le père sont en accord avec ce, ce projet, c'est très important que la femme se sente soutenue.
J'avais une sage-femme et une gynéco que je voyais en alternance, donc pour les échographies et tout ça, j'allais voir ma gynéco. Et pour les autres tests, entre-temps, en fait, une fois sur deux, c'était plus ou moins ma sage-femme et mon gynéco, ma gynéco.
Je pose cette question parce que je trouve que c'est important de parler de ce thème d'accompagnement global de la sage-femme. Cela consiste en la réalisation par une même sage-femme du suivi prénatal, de l'accompagnement perpartal, c'est-à-dire au moment de la naissance, et du suivi postnatal. Je mettrai la définition exacte de l'accompagnement global qui est donnée par l'Association nationale des sages-femmes libérales dans les notes du podcast. Ta recherche pour trouver une sage-femme qui accepterait de faire l'accouchement à domicile, est-ce que ça a été compliqué ou pas pour toi ?
Pas du tout. Alors, j'ai regardé sur Internet les sages-femmes qu'il y avait autour de moi et j'ai tout de suite vu une liste d'une quinzaine de sages-femmes qui étaient dans mon quartier, et il y en avait peut-être deux qui faisaient de l'accouchement à la maison. Et puis, j'ai eu ma sage-femme au téléphone, elle s'appelle Angélica, donc Angélique, et elle était vraiment, comme le nom, son nom allait bien avec elle. Quelqu'un de très... on s'est tout de suite...
une connexion.
Voilà, connexion immédiate. Sa voix m'a plu, sa façon de parler, elle était joyeuse, elle était de bonne humeur. Et c'est tout de suite, je me suis dit, ah oui, ça c'est une personne que j'aimerais bien qu'il m'accompagne. Et donc je lui ai demandé si elle était disponible pour mes dates. Et oui, donc j'ai eu très facilement finalement une sage-femme.
Donc vous vous êtes rencontrés à peu près à quel terme de la grossesse ? Vous êtes premier trimestre, du coup.
Exactement, donc je pense que je devais être, à 8 ou 10 semaines environ. Elle est venue chez moi, très sympa, on a eu un thé ensemble, elle a rencontré mon mari. Elle voulait aussi savoir voilà, si mon mari était pour ou pas, elle connaître son opinion aussi, parce que... C'est vraiment important pour le bon déroulement de la naissance. Ça, si d'un coup le papa panique ou change d'avis, ça serait peut-être pas très positif pour le déroulement de la naissance.
Effectivement. Donc, elle réalisait les consultations prénatales.
Exactement.
Donc, elle se déplaçait à chaque fois chez toi.
Oui, elle restait au moins, je pense, au moins une demi-heure. Elle venait, c'était comme si une maman, en fait. Elle me rappelait aussi de son physique, un peu ma mère, effectivement, et de par son âge aussi. Et elle était voilà, comme une maman, une bonne maman douce qui viendrait voir oui, que tu ailles bien et qui te mette en confiance, qui réponde à tes questions s'il y en a, qui soit bienveillante. Voilà, je dirais le mot qui me vient par rapport à ma sage-femme, c'est quelqu'un de bienveillant.
Ouais, bah oui, parce qu'effectivement, le suivi n'est pas que purement médical, il est aussi émotionnel.
Exactement, et puis comme il faut faire confiance le jour J à la sage-femme, donc il faut vraiment que cette relation elle se tisse.
Exactement.
D'où l'intérêt de très tôt, je dirais, connaître sa sage-femme.
Ouais.
Pour voilà, avoir le temps de tisser cette relation.
Tout à fait, et puis c'est vrai que le fait que la sage-femme se déplace chez toi, alors c'est vrai que c'est un confort pendant la grossesse, mais ça lui permet aussi de voir ton environnement, de déjà voir est-ce que l'appartement est adapté pour un accouchement à la maison.
Moi j'étais au 4e étage sans ascenseur, c'était on va dire moyennement adapté si on avait dû faire un transfert. Mais en même temps, c'était spacieux, donc c'était, on avait une grande baignoire, donc c'était adapté. Et puis du coup, aussi, elle apprend à connaître le caractère, enfin mon caractère, pour savoir aussi le jour J, par rapport à mes réactions, au combien je diffère de comment je suis d'habitude, pour pouvoir savoir aussi est-ce que c'est normal, est-ce qu'il faut s'alerter, pour pouvoir garantir la sécurité, en fait, de toute la famille.
Tout à fait. Et est-ce que tu avais aussi fait un enregistrement dans un hôpital, au cas où?
Oui. Alors j'étais enregistrée à la clinique pour, voilà, dans tous les cas, pour qu'ils aient déjà mon dossier et pour, en cas d'urgence ou de transfert exactement, que mon dossier soit déjà sur place, que j'ai pour le jour J, qu'ils aient aussi de la place pour moi. Enfin, qui me connaissent et que ça se déroule au cas où il y aurait un transfert, que ça se déroule le plus facilement possible pour tout le monde.
Comme voilà. Ça, ils ont ton dossier, etc. Et ils savaient que tu avais ce projet d'accouchement à la maison, mais bon, il y a toujours, pour un accouchement à domicile, nous faisons la différence entre les grossesses à bas risque et les grossesses à risque. Donc, si tous les feux sont verts pendant la grossesse, donc on considère que la grossesse est à bas risque, qu'il n'y a pas de pathologie, etc., on peut présumer que l'accouchement sera physiologique et aussi à bas risque.
Exactement, donc 2 semaines par rapport au contrat, par exemple, on signe que 2 semaines vraiment avant la naissance prévue, enfin le terme. On signe là le contrat définitif, comme quoi ça va être possible. Donc, il reste jusque à la fin, s'il y a quoi que ce soit, la sage-femme ne prendra jamais le risque d'accoucher une maman où ça ne serait pas raisonnable.
Oui, évidemment.
Donc, il y a toute une liste de critères auxquels il faut répondre pour pouvoir accoucher à la maison. Donc, ce n'est pas pour tout le monde, on va dire. Enfin,
oui, évidemment. Par exemple, le terme de la grossesse doit être plus de 37 semaines, un aménorrhée, on doit avoir une absence de diabète gestationnel, la prééclampsie, la prise de poids doit être raisonnable. Il y a toute une liste de critères. Je mettrai ces critères aussi dans les notes du podcast. Voilà, donc Marie a eu la chance d'avoir une grossesse totalement physiologique et donc la logique des choses fait que l'accouchement a été physiologique et justement, tu vas nous raconter comment s'est passé le jour J pour toi, donc la naissance de ton petit Victor à la maison, l'atmosphère que tu as créée.
J'ai été au Café des Mamans, francophone de Munich, un endroit fantastique pour rencontrer plein de mamans et donc toi, Laura, où je t'ai rencontrée. J'ai été manger au café. J'ai vraiment senti tous les encouragements de toutes les mamans que je connaissais depuis toute ma grossesse et avant, qui m'ont vraiment donné cette énergie positive. Là, je suis partie du café l'après-midi et j'avais l'impression d'avoir rempli mes batteries d'amour et de bienveillance.
C'était plein d'ocytocine.
Exactement. Et je n'avais pas eu de contraction avant, mais je sentais, pour moi, c'était aujourd'hui.
Et tu étais à quel terme à ce moment-là?
Exactement le jour J.
Ah, donc c'est 40. En Allemagne, c'est 40, on compte le terme à 40 semaines d'aménorrhée.
Donc mon fils devait naître le lendemain. Donc c'était un jeudi soir, un peu avant minuit. D'un coup, je sens, il y a quelque chose. Je m'étais couchée. Et puis je sens, non, là ça vient. Enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Mon mari avait mis à côté du lit déjà un tapis de gym avec le ballon.
Pour faire des exercices.
Voilà, exactement. S'était dit, oui, c'est aujourd'hui, c'est cette nuit que ça va se passer. Et effectivement, quelques minutes après minuit, d'un coup, je sens vraiment, là, faut que je me lève. Donc, je me lève, je me mets contre le ballon, à genoux, je fais tourner un peu mon bassin. On va dire, bon, allons voir qu'est-ce qui se passe. Et là, je sens quelque chose qui tire très fort dans le...
D'accord.
Non, c'était entre le nombril... C'était devant, entre le nombril on va dire, et le pubis. J'ai senti comme un espèce de déchirement. Je me suis dit, ok, donc c'est vraiment... Ça commence, là. J'ai été dans la salle de bain. J'ai été prendre un bain pour me relaxer. Et aussi, on m'avait dit... un bain chaud, tu verras si les contractions s'accélèrent, c'est que c'est vraiment le travail. Si ça se calme, c'était une fausse alerte. Donc j'appelle ma mère aussi en haut-parleur, je prends mon bain très rapidement, j'ai des contractions toutes les 5 minutes.
Et t'as ressenti à ce moment-là le besoin d'appeler ta mère?
Oui, tout de suite.
Communion un petit peu aussi par rapport à elle, c'est ce qu'elle a vécu.
Oui. On était très proches pendant la grossesse aussi. Ouais. On s'appelait pratiquement tous les jours. J'étais très curieuse de savoir comment se passait un accouchement, puisqu'elle avait eu vraiment cinq expériences. Donc je me disais, elle devra pouvoir me dire comment ça se passe. Et puis elle me disait toujours, tu verras ma chérie, le jour on ne peut pas savoir, il y a des jours où des fois ça se passe comme ça, des fois autrement, on a des envies. Et puis pour la prochaine naissance, on prévoit de faire ça, et puis finalement ça ne nous dit pas ce jour-là. Donc elle me dit, tu verras, tout ira bien, et puis ça ira.
Fais-toi confiance.
Voilà, exactement. Donc c'était dans cet esprit-là. Et c'est vrai que c'était un réflexe de l'appeler. Ben aussi, dès que j'étais enceinte, je l'ai appelée et je lui ai dit, maman, je suis enceinte. C'est vraiment, je suis sortie de la salle de bain et c'était vraiment, j'ai couru l'appeler pour lui dire que j'étais enceinte. Et c'était, c'était très fort. J'ai senti vraiment une connexion, c'est vrai, avec ma mère très forte, plus forte que d'habitude dès que j'étais enceinte. Et donc, et quand la naissance a commencé, effectivement, oui, j'avais vraiment ce besoin de.
D'être en contact avec elle
et de
partager le début du travail.
Exactement, comme on est à 1000 km de distance, donc c'était.
Qu'elle t'envoie des ondes positives.
Voilà, c'était la façon qu'on soit ensemble quand même.
Ouais.
Donc c'est comme ça que ça a commencé assez rapidement. J'avais des contractions toutes les 2 minutes.
Ah oui.
Donc entre temps, mon mari avait appelé la sage-femme. Qui est arrivé assez rapidement. Elle habitait quand même l'autre bout de la ville, mais elle m'est arrivée au bout d'une demi-heure ou quelque chose comme ça. Mmh. Donc vers 1h du matin, je pense, à peu près.
C'est aussi un critère pour la sage-femme, la distance à parcourir le jour J.
Donc elle est arrivée, joyeuse, montée les 4 étages, ça me fait un peu bout de souffle.
Arrivée avec la neige.
Exactement, il y avait la neige. J'étais contente de la voir. J'étais assez...
dans ta bulle.
Voilà, dans ma bulle. Et du coup, tout était un peu comme... coton, on va dire. Enfin, j'étais présente et tout ça. Mais c'était quand même j'étais plus comme focussée, comme mon champ de vision, je dirais aussi, et autour de moi était comme plus réduit, comme j'étais comme dans une bulle de cocooning, et j'étais vraiment pour moi, on va dire.
Oui, ce qui est tout à fait normal en fait. Pour vraiment pouvoir accepter ces contractions, pouvoir faire de sorte à ce que le travail évolue, il faut se sentir en sécurité, rentrer dans sa bulle, et puis. Prendre chaque contraction après chaque contraction et ne pas être dérangé par des stimulations externes.
Exactement. Ça,
c'est aussi l'avantage d'être à la maison et d'avoir son propre environnement.
Exactement.
Et un nombre réduit de personnes autour de soi.
Ça, c'est vrai, d'être vraiment pour soi. C'était un des critères le plus important pour moi aussi, pourquoi j'ai choisi la naissance à la maison. Je voulais être à mon rythme. Et pouvoir, je suis quelqu'un de très intuitif, et du coup, je voulais vraiment pouvoir suivre mon corps et les signes que mon corps et mon bébé me donnaient.
Ouais.
Donc pour moi, j'avais l'impression que chez moi, ça serait l'endroit le plus adapté pour pouvoir voilà, lâcher prise et être vraiment me concentrer sur ce qui se passait et pas vraiment ce qu'il y avait autour, on va dire.
Ouais.
Donc être dans une ambiance sécurisante pour lâcher prise.
Oui, d'accord. Et ton mari, lui, comment il était ce jour-là? Il était plutôt détendu?
Il était détendu, il était un petit peu fatigué parce qu'il avait été à la salle de sport pendant au moins 2 heures, il me semble. Donc j'avais dit, tu sais chérie, je pense qu'il viendra ce soir, mais bon, si tu... Et lui, il avait besoin. Ouais. Parce qu'il m'a dit, non mais j'y vais parce que justement, s'il vient, j'ai besoin d'être moi aussi serein et bien, et du coup... Pour lui, faire du sport, c'est quelque chose d'important et ça le ressource.
Mmh.
Donc, c'était vraiment important. Et puis, il savait aussi qu'il allait être avec 2 femmes. Et pour lui, c'était aussi important d'avoir sa place, on va dire,
il y avait ce duo de femmes.
Voilà. Et il savait qu'il était dans le rôle, on va dire, d'assistant. Mmh. Et du coup, il voulait voilà, être calme et serein et pouvoir être à mes côtés. Mais me connaissant, il savait que j'étais plutôt quelqu'un qui avait besoin de faire moi-même, on va dire, et d'avoir beaucoup de paix, en fait. Mmh. Donc, c'était beaucoup ça, ce que j'ai très apprécié aussi de ma sage-femme, qui m'a laissé tranquille, on va dire, et qui m'a fait confiance, qui voyait, elle m'a dit « tu gères très bien, je vois que tout va bien ». Moi, j'étais dans la salle de bain, dans le bain. Elle était dans la pièce à côté, dans le salon. Elle écrivait donc ce qui se passait. Elle faisait
la documentation.
Ouais, la documentation, exactement.
Elle était là,
mais quand j'avais besoin, on va dire.
Ouais.
Et sinon, elle était en retrait exactement comme j'avais besoin.
Ouais.
Je suppose qu'elle aurait été autrement pour une femme qui aurait eu besoin de plus qu'on lui donne la main ou d'être plus proche. Elle l'aurait fait et elle a vu que pour moi, c'était pas ça que j'avais besoin. J'avais besoin qu'on me laisse
tranquille.
Voilà.
Et d'accord. Et du coup, elle est très peu intervenue dans le sens où
exactement.
Les touchés vaginaux, ils sont peut-être pas non plus aux heures comme à l'hôpital, mais c'est plutôt quand assez strict.
Il semble qu'en tout, mon accouchement a duré 12 heures.
Mm-hmm.
J'ai eu, il me semble, 2 touchés seulement.
Oui.
Non, quand elle est arrivée, elle a écouté les bruits du cœur et que tout aille bien. Et ensuite, vers 4-5 heures du matin, elle m'a demandé si elle pouvait faire le toucher vaginal. J'étais malheureusement qu'à 3 cm. Et j'avais des contractions toutes les minutes, qui duraient 2 minutes. Donc c'était vraiment très intense. Et là, c'est vrai que j'étais déçue. J'étais vraiment déçue. Elle me disait aussi, ouais, je sais pas, je vois que t'as quand même l'air de souffrir quand même. Est-ce que tu penses que tu vas être transférée? Quand elle m'a dit ça, c'était très dur pour moi parce que d'un côté j'étais donc déçue que j'étais que à 3 cm, alors que bon, ça faisait déjà donc 5 heures que j'étais en contraction permanente. Et c'était la seule peur en fait que j'avais pendant la grossesse, c'était que le jour de l'accouchement, finalement, de devoir aller à la clinique. Quelqu'un d'autre décide que j'ai besoin d'aller à la clinique, on va dire ça, comme ça. C'était quelque chose qui me rassurait pas. Dream, rock, river, steam. Flowers burn, fishes, animals. je lui ai dit « Ok, on va à la clinique, mais alors on fait une césarienne parce que là, je veux que ça en finisse. » Et j'étais vraiment... Ouais, j'étais déçue. J'avais pas fait mon sac pour la clinique parce que je m'étais dit que j'en aurais pas besoin, donc je l'avais pas fait. Donc mon mari, pendant ce temps-là, a fait mon sac et est allé déneiger la voiture.
Ah oui. Petit détail,
mais important, oui. Puisque ça a pris le temps qu'il se prépare, tout ça, ça a pris une minute, une demi-heure. Et là, pendant ce temps-là, j'ai eu cette prise de conscience. J'étais allongée sur mon canapé et ces contractions me travaillaient, on va dire. Je me disais, bon, j'avais qu'un but, c'est de me lever. À la prochaine contraction que je peux, il faut que je me lève. Donc, j'ai mis quand même quelques minutes à y arriver, mais finalement, j'ai eu une pause et là, bon, je me lève. Et je me suis rappelée d'une vidéo que j'avais vue pendant ma grossesse, assez marrante. C'était un médecin au Brésil qui, pendant les accouchements en clinique, dansait avec ses patients pour les détendre en fait et les aider dans le travail. Et donc ça m'est venu en tête, j'ai souri et là j'ai commencé à danser. donc des grands mouvements de bassin, on va dire. Et là, les hormones m'ont aidé et là ça allait beaucoup mieux. Et mon mari est revenu et il me dit mais qu'est-ce qui s'est passé, enfin, parce que j'étais avant allongée, je pouvais pas bouger, puis là j'étais en train de danser. Il m'a dit mais qu'est-ce que il a demandé à la sage-femme, qu'est-ce que vous lui avez donné, qu'est-ce qui se passe quoi. Et je suis très reconnaissante parce que ma sage-femme elle m'a dit aussi, alors ok, on va à la clinique, mais par contre ce qu'il faut que tu saches c'est que le temps qu'on y soit, le temps qu'on compte la péri, ça va prendre au moins une demi-heure. Et le temps que la péri fonctionne, voilà. Donc elle m'a dit ça va prendre une demi-heure, trois quarts d'heure. Et donc là je me suis dit ok, descendre quatre étages dans mon état, faire un quart d'heure de voiture dans la neige, arriver là-bas, le temps que quelqu'un soit libre pour me mettre la péridurale, que ça vende, je me suis dit non. Là je j'étais bien motivée, je me suis dit non, tu continues. Enfin pour moi c'était pour arrêter de souffrir vite, quoi. Mais je me suis dit, si ça dure encore une heure ou quoi, c'est bon.
Autant rester à la maison.
Exactement, tranquille. Et donc là, j'étais de nouveau repartie. J'avais de nouveau ma force intérieure, on va dire. Et je me suis dit, non, c'est bon, allez, on continue. Et à partir de là, ça a été très bien. Et j'étais de nouveau dans la baignoire. Et vers 9h du matin, 10h, quelque chose comme ça, elle m'a dit... Ah, oui, là ça y est, tu es à 10, très bien. Donc elle m'avait laissé tranquille pendant tout ce temps, elle avait même été s'allonger, mon mari aussi. Ils avaient été s'allonger un petit peu. Moi j'étais dans la baignoire, j'avais un coussin super confortable, donc je dormais aussi à moitié, avec de l'eau bien chaude. Donc j'avais. Là les douleurs étaient assez. C'était. Ça allait. C'était dès que j'étais en bord de l'eau, là c'était dur pour moi, mais dès que j'étais dans l'eau, c'était très supportable. Et du coup, ça dure encore plus de 2 heures. Mais au bout d'un moment, elle m'a dit oui, peut-être que là, il faudrait pousser ou quoi. Et puis, je lui ai dit maintenant, je ne sens pas. Et effectivement, quand ça a été le moment de pousser, là, c'était.
C'était un réflexe.
Un réflexe, exactement. Et en fait, je l'attendais, puisque j'avais lu un peu là-dessus. Tu m'avais justement conseillé un livre d'une sage-femme québécoise très bien, qui le titre.
Isabelle Brabant.
Exactement, merci. Donc je savais que j'attendais que un signe de mon corps, on va dire, et de mon fils. Et là, c'était vraiment, réflexe naturel, assez rapidement, il me semble, je sais pas, 4-5 poussées, il était sorti.
Ouais. C'était libérateur de pousser.
Oui, toi. Alors de pousser, oui. Je me rappelle lui dire à ma sage-femme. Mais je comprends pas les gens qui ont plusieurs enfants, franchement, c'est abusé, quoi. Comme je l'avais une fois, comment tu peux vouloir y retourner? Et puis elle me dit, oui, t'inquiète pas, dans 2-3 ans, on va se revoir. tu changeras ta vie. Comme je suis asthmatique, donc, en fait, j'arrivais au bout de mon souffle et j'avais pas fini de la tousser, on va dire. Du coup, elle m'a donné un conseil très, très efficace. Elle m'a dit, à la prochaine poussée, quand tu n'as plus de souffle, tu fais comme ça, tu expires pour rallonger ton souffle. Et effectivement, j'ai fait ça et 2 poussées plus tard, il est sorti. Donc c'était vraiment très efficace. Et après la naissance, j'étais relax dans l'eau, donc j'allais bien et je faisais un peu des grognements. Mon mari disait comme un ours, je dirais.
Ils sont assez graves.
Voilà, parce que justement les sons aigus ferment le col, du coup, et ça fait mal. Plus on va dans l'aigu et plus on va dans le grave, plus c'est un son qui va de l'air vers le bébé et qui va ouvrir le bassin. Donc ça, j'avais ça en tête. J'ai pas pleuré, j'ai pas crié, rien du tout. C'était des sons comme ça de d'ours.
Parce que les sons animaux.
Exactement. Mais pas fort, en fait, puisque nos voisins ne se sont même pas rendus compte que j'avais donné naissance cette nuit-là. Donc, apparemment, c'était quand même assez... Enfin, ça ne faisait pas beaucoup de bruit, quoi.
Donc, cette respiration et ces sons que tu réalisais, ça t'a aidé à garder le contrôle. Finalement,
aussi, oui.
Il y a accepté chaque contraction, oui. De les prendre l'une après l'autre.
Exactement, c'était très... J'avais lu ce... Comme à place de penser à des contractions, penser à des vagues. Mmh. Et c'est vrai que ça m'aidait aussi. Et j'avais une phrase de Marianne, prof de yoga, chez qui j'avais fait la préparation à la naissance et le yoga prénatal, qui disait « Ouvrez vos ischions ». Alors, qu'est-ce que c'est les ischions? C'est les os des fesses, on va dire. Fallait quelque chose que moi, je n'aurais pas pensé très intuitif, mais qu'elle nous avait montré. Les genoux, quand vous pivotez les genoux vers l'intérieur, ça ouvre le bassin vers le bas et fait de la place pour faire passer le bébé. Donc, en fait...
La position chasse-neige.
Exactement. Qui paraît pas forcément... quand on l'a fait, on se dit, ben non, ça ferme. Mais en fait, effectivement, ça ouvre. Et c'est vrai que j'ai accouché donc, dans la baignoire, sur le dos. Alors, une position que j'aurais pas pensé forcément physiologique, mais qui, moi, m'allait très bien. Donc, jusqu'à un peu avant que mon fils sorte, j'étais sur le côté. Et quand j'ai senti vraiment ces contractions de pousser... de la fin, là j'étais sur le dos, à moitié, dans une baignoire, donc à moitié assise, quoi. Les jambes sur les bords de la baignoire, exactement. Mon mari tenait, d'un côté j'avais le pied contre le mur, de l'autre côté mon mari tenait ma jambe. Il vous dira après qu'il a fait beaucoup de travail pendant la naissance parce qu'il tenait ma jambe. En fait, c'était pour l'occuper que je lui ai donné cette jambe pour qu'il soit concentré sur quelque chose.
Et il a été en première loge.
Donc il était voilà en première loge. Et c'est vrai que il a beaucoup aimé. Il m'a dit c'était impressionnant en fait d'être vraiment là et de voir son fils vraiment naître, quoi, comment ça se passait. Et aussi quelque chose qui nous avait beaucoup aidé par rapport à mon mari, c'est quelques jours avant la naissance, je lui avais montré sur YouTube des naissances naturelles dans l'eau. Et mon mari était très surpris, il m'a dit mais c'est assez rapide, et il n'y a pas du sang partout, et elle hurle pas. Et j'étais sûre, c'est des vraies vidéos. Je lui ai dit bah oui, donc je lui en ai montré plusieurs pour le convaincre. Il m'a dit ah oui, c'est comme ça. Et donc il était très, très étonné que la naissance naturelle était en fait quelque chose de très doux.
Oui.
Donc ça l'avait vraiment réconforté là-dessus, parce que je lui avais parlé plusieurs fois pendant la grossesse que je lui disais tu voudrais pas regarder des vidéos et tout, et puis il me disait non c'est bon, ça ira. C'est toi qui accouches, c'est bon, je peux pas de regarder les vidéos pour ça. Et puis je lui ai dit mais quand même tu sais, ce serait bien de... Donc à la fin de... que tu aies vu quand même quelques fois des naissances à la maison, parce que c'est pas la même chose que des naissances en clinique, donc que tu aies un peu une idée de comment ce serait vraiment. Ça l'avait beaucoup rassuré. Il avait vu plus où était son rôle à lui, donc il m'apportait à boire ou des trucs comme ça. Enfin, il était plus dans son rôle d'assistant, voilà. Sage-femme aussi, tout de suite, elle demandait à sage-femme comment il pouvait l'aider pour être l'assistant, on va dire, de la sage-femme. Donc c'était vraiment un travail d'équipe.
Ouais, s'est senti utile.
Exactement.
Il n'était pas dans un coin, se sentir totalement impuissant en voyant sa femme gérer les contractions. Donc, effectivement, c'est aussi un des avantages de l'accouchement à domicile. souvenir de le moment où la tête est sortie, en fait. Une des peurs qui n'est pas du tout fondée, puisque le bébé est de toute façon dans le liquide amniotique, une des peurs, ce serait que le bébé s'étouffe. Alors que bah, le bébé, en fait, il est déjà dans le liquide amniotique, donc dans de l'eau. Il est toujours connecté au placenta par le cordon, donc il reçoit toujours les nutriments, l'oxygène. Et qu'en fait, cette phase d'expulsion du bébé, de la tête et du corps par la suite, ça peut se faire en deux temps. Il peut y avoir une contraction, hop, la tête elle sort tout doucement. Et puis on doit attendre la contraction d'après pour que le corps sorte. Et cette phase-là, elle peut être un peu longue. Enfin, un peu longue, ça peut durer peut-être une minute. Et ça peut être long sur le moment. Et en fait, la peur de beaucoup de gens par rapport à l'accouchement dans l'eau, c'est « Ah, mon bébé, il va s'étouffer !» Alors que non, parce qu'en fait, il n'a pas encore eu ces stimulations extérieures, du changement de température, de la luminosité, de la peau, c'est du contact peau à peau avec la maman,
Oui, puis par rapport aux poumons aussi, les poumons ne sont pas encore ouverts. Donc, tant qu'ils sont fermés... ils sont encore connectés à ce système, amphibique.
Il y a toujours cette circulation fœtale, en fait, qui reçoit tout par le cordon. Et oui, c'est vrai, quand il va avoir ces stimulations extérieures, là, le cœur et les poumons vont prendre le relais.
Non, c'était pas du tout. Donc, une peur que j'avais, ça, je savais, les poumons étaient fermés, donc c'était pas... Non. Moi, c'était plus, non, c'était d'un coup, c'est la tête est sortie, et tout de suite, j'ai senti le corps qui frôlait et qui glissait avec.
D'accord. Très bien. Et donc, voilà, Victor est né, tu as fait le pot à pot, certainement.
Exactement, donc il est né, elle a tout de suite sorti de l'eau, mise sur ma poitrine. Je ne le voyais pas vraiment parce que j'étais allongée à moitié sur le dos et il était posé directement sur ma poitrine. Et du coup, je voyais son corps, mais pas sa tête. Donc là, tout de suite, j'ai dit à mon mari, mais il ressemble à quoi? Donc, on a une photo, du coup, de quand il vient juste de naître, parce que, voilà, je voulais voir à quoi il ressemblait, quoi.
Ouais.
Et je voulais pas le déranger, hein. Du coup, voilà, on a une photo d'exactement ce moment-là que j'adore.
Donc, le placenta, il est sorti, et c'est qu'à ce moment-là qu'on a coupé le cordon, on a clampé et coupé le cordon du bébé.
Exactement. Donc là, elle a demandé à mon mari s'il voulait couper le cordon, ce qu'il voulait, donc il a coupé.
Donc c'était un clampage tardif, comme on dit, qui est plutôt pratiqué en Allemagne, maintenant même dans les hôpitaux. C'est rentré dans les mentalités, dans la pratique médicale. Et donc tu disais justement que tu étais surprise par ta forme, plutôt juste après la naissance, que tu étais en forme. Alors explique-nous, décris-nous comment tu étais.
J'étais surprise parce que donc, j'ai expulsé dans mon fils et immédiatement, aucune douleur, rien du tout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Puisque à ce moment-là, c'est vrai que c'est un moment assez intense, mais c'était presque agréable, je veux dire. Puisque c'était vraiment la pourquoi on était là, quoi. Donc ça faisait 9 mois que j'étais enceinte et qu'on allait dans cette direction pour la naissance. Donc c'était libérateur et c'était pas vraiment trop douloureux, non. Ça m'avait déjà surpris pendant que j'étais en train de l'expulser, mais après aussi la douleur qui s'est arrêtée immédiatement.
Ouais.
C'était oui.
Et puis ton périnée était intact.
Exactement. C'était aussi intact et ça m'avait surprise aussi parce que j'avais entendu d'autres mamans souvent de déchirures. Le postpartum de ce fait assez douloureux. Donc ça aussi j'étais contente que ça soit passé. Je dirais comme une lettre à la poste, un peu naturel, on va dire.
Voilà.
Victor a resté une vingtaine de minutes sur ma poitrine et puis j'ai senti que c'était pas assez chaud. Ma peau devenait fraîche et du coup, c'est mon mari qui a pris la relève et qui l'a pris en peau à peau.
Ça devait être un beau moment aussi pour ton mari, ce peau à peau.
Oui. Je le revois le tenir et puis. Il glisse quand même et tout, il est encore un peu. Il glisse un peu, t'es sûr que ça va? T'inquiète pas, tu vas pas faire tomber, il est bien sur toi. Par contre, mon mari dit, mais j'ai chaud. Parce qu'en fait, on avait dans la salle de bain, la sage-femme avait dit qu'il fallait chauffer à 27-28. Et donc, il a donc gardé Victor, je dirais, au moins une heure et demie.
Ah oui, c'est c'est une...
Donc c'était, en fait, il l'a eu au début, plus longtemps que moi, on va dire, au début.
T'avais le temps de faire la tétée en Écosse?
Non, j'ai pas fait... Non, à ce moment-là, c'était pas... non, il était... Alors, Vicky, elle a jamais crié. Il est né, il était paisible.
Oui.
Il a mis sa tête donc, sur ma poitrine, il était content.
Oui, parce que tout s'est fait en douceur, parce que donc, le cordon n'a pas été coupé et clampé.
Donc c'était pas le cri qu'on connaît dans les films, voilà. Quand il hurle, on lui tape sur les fesses, là. C'était pas ça, tout calme, il dormait.
Le vécu de l'accouchement, que ce soit pour maman et bébé, a un impact à long terme.
Oui, c'est vrai.
Dans la relation.
Ah oui, je voulais revenir sur un point. Quand j'ai ce down, on va dire, où on se disait peut-être dans la clinique serait une option. Ce qui m'a donné de la force aussi, c'est je me suis dit, je suis une équipe avec mon fils. Mm-hmm. Et lui, là, pour ouvrir ce col, eh ben, il travaille.
Oui.
Il travaille beaucoup. Et je me suis dit, je peux pas
l'abandonner.
Non, pas l'abandonner. Non, je me suis dit, je lui dois ça. De moi aussi faire ma part du travail.
Ouais.
Si enfin pour moi d'aller en clinique c'était plus pour moi c'était choisir le ce qui était facile pour moi. Mm-hmm. À ce moment-là je me disais mon bébé lui il peut pas prendre la péril. Lui il continue à bosser. Ouais. Et là je me suis dit non je lui dois ça et là je me suis dit c'est ma première épreuve de mère de faire ce chemin avec lui.
Ouais.
Et de qu'on ait une équipe. Et que, ouais, on va faire ce chemin ensemble et on va y arriver.
Ouais.
Et c'est ça qui m'a donné une force, je pense, qui m'a, ouais, une force énorme à ce moment-là de surmonter, on va dire,
les difficultés, l'épreuve à ce moment-là.
Exactement, l'épreuve du moment et de me dire, ok, on est une équipe et on va y arriver.
À domicile, est-ce que si tu vivais toujours en France, tu penses que tu aurais eu ce courage d'affronter tous les jugements de la société, toutes ces difficultés à trouver une sage-femme en France, est-ce que tu penses que ça t'a donné confiance aussi le fait d'être à Munich?
Je sais pas, parce que j'étais pas consciente avant qu'en France c'était aussi difficile, mais c'est vrai qu'autour de moi, j'avais pas mal d'amis qui étaient assez partagés. On était les premiers couples dans nos amis à avoir un enfant. Donc les gens autour de nous étaient assez sceptiques par rapport au fait que, oui, qu'on avait choisi l'accouchement à la maison. Elle disait c'est un peu... c'est sûr, c'est dangereux. Tous les préjugés que les gens peuvent avoir au sujet de l'accouchement à la maison.
Et toi, ça t'a affecté?
Non. Parce que j'étais sûre de mon projet, on va dire. Donc pour moi, c'était... non, du coup, j'informais un peu les gens sur...
Tu n'évitais pas le sujet?
Non, voilà. Je n'évitais pas, mais c'était... je ne suis pas militante non plus.
D'accord. Est-ce que tu as aussi trouvé de l'écoute et du soutien aussi de la part de la famille, d'autres amis?
Oui, j'avais des... Il y avait deux camps, plutôt d'un côté qui me disait « bon, tu es irresponsable ». Et de l'autre côté qui me disait « waouh, moi j'aimerais bien aussi, waouh, c'est courageux », qui était qui me soutenait là-dessus.
Et que conseillerais-tu à une amie qui souhaiterait aussi mettre son enfant au monde à la maison?
Je lui dirais « fais confiance à toi et à ton bébé et à ta sage-femme, ça se passera bien ». Il faut être accompagné, ça je pense que c'est important. Accompagné par une sage-femme qui sait, parce qu'on a une intuition, mais des fois il y a des signes qu'on peut peut-être ne pas bien interpréter, et aussi pour justement ne pas avoir à interpréter forcément ces signes et d'avoir quelqu'un de confiance à ses côtés qui nous soutient pour qu'on puisse se concentrer justement sur cet acte naturel qui est la donner la vie, puisque c'est quelque chose que avant tout le monde faisait à la maison, en fait.
Bien sûr, c'est très récent.
Oui,
l'accouchement
médicalisé.
Oui, à l'hôpital, que la majorité de la société, finalement, la majorité des femmes dans les pays occidentaux accouchent à l'hôpital, c'est après les années 50. Hein. Donc c'est assez récent. Je te remercie, Marie, pour ce partage.
Merci à toi, Laura.
Extrêmement intéressant.
Au revoir, merci.
Merci.
Quels sont les préjugés ? Oui, l'accouchement à domicile accompagné d'une sage-femme est sécuritaire. Grâce au rapport de 2018 et 2019 de l'APAD, l'Association professionnelle de l'accouchement accompagné à domicile, nous avons des statistiques et données fiables sur l'issue de l'accompagnement global, l'accompagnement pré-père et postpartum, c'est-à-dire pendant la grossesse, l'accouchement et pendant au moins 6-8 semaines après la naissance. Vous allez être surpris, mais personne n'est mort. Les bébés sont tous nés vivants et les mères le sont restées aussi vivantes. Il y a toujours une part dans la nature d'imprévisible et incontrôlable. Grâce aux avancées médicales, à l'hygiène, passant parfois par des gestes très simples, comme le lavage des mains, aux connaissances de l'obstétrique et la technique, la mortalité et la morbidité maternelle et infantile ont nettement diminué. La révolution médicale au cours du XXe siècle peut être l'objet d'un épisode entier. Les progrès ont été spectaculaires et salvateurs. Mais la grossesse n'est pas une maladie. Bon, le suivi prénatal mensuel a une importance primordiale afin d'identifier si la grossesse est à bas risque obstétrical. Les chiffres montrent que lorsque la grossesse est à bas risque, l'accouchement devrait se dérouler physiologiquement ainsi que le postpartum. Et vous allez peut-être être étonné, mais les chiffres montrent aussi qu'il y aurait un bénéfice à développer l'accompagnement à domicile pour les femmes et les bébés, et donc aussi le père et la famille dans son ensemble. Mais si on se centre sur la maman et son bébé, le fait d'intervenir le moins possible, de laisser la femme se mouvoir comme elle le souhaite, dans son environnement, de laisser la femme choisir spontanément la position pour accoucher, il s'avère que 11% des bébés naissent coiffés, c'est-à-dire encore dans la poche des os. Le taux d'hémorragie du postpartum est diminué. L'apparition de déchirures du périnée est moindre. La pratique de l'épisiotomie reste très marginale. Les taux de transfert néonataux sont diminués ainsi que la réanimation néonatale. Et plus de 98% des femmes allaitent. Pour vous donner quelques chiffres, 2000 bébés naîtraient à domicile en France. Cela représente environ 0,2% des naissances. Les transferts réalisés en cours de travail représentent environ 10% et sont rarement effectués en urgence. Les trois raisons principales sont la non-progression de la dilatation du col, la non-progression de la présentation, donc du bébé, et la demande de la mère d'avoir une analgésie péridurale. Car oui, ce n'est pas parce que vous avez signé les papiers avec la sage-femme pour l'accouchement à la maison que vous ne pouvez plus changer d'avis. Vous restez libre à tout moment de dire que vous avez envie d'aller à l'hôpital. Si le thème de l'accouchement à domicile en France et aussi en Allemagne vous intéresse, nous vous invitons à lire les notes du podcast. Le choix du lieu d'accouchement devrait être un droit. Si l'état médical de la maman le permet, elle devrait choisir librement de pouvoir enfanter à domicile, ou en maison de naissance, ou en plateau technique, ou dans un hôpital.
Mon corps, mon accouchement. Un podcast de Laura Mbaye-Honegger
et Aline Profi.
Retrouvez nos articles et liens sur notre site mernature.org. Et pour recevoir de nouveaux épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas à partager si cela vous a plu et à nous mettre 5 étoiles. Nous sommes aussi sur Facebook et Instagram. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au podcast et à bientôt.